Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une grande paix. J'espère que vous avez bien aimé mon message de vendredi passé. Aujourd'hui, c'est la suite. Mais vous pouvez quand même écouter ce message sans avoir écouté l'autre. Mais quand même, ça serait bien si vous pouviez aller écouter l'autre message, celui de vendredi passé. Je vais vous faire une lecture dans le psaume 145, versets 8 à 9. Alors, je vais vous prendre la version de mon frère Alfred Kuhn, 145, versets 8 et 9. « Le Seigneur est plein de grâce et sa compassion... Le Seigneur est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et rempli d'amour. Le Seigneur est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes ses créatures. » Amen. Là, quand on regarde ce qui se passe dans ce monde, on se dit, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Oui, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit souvent, depuis que j'ai rencontré Jésus, en 1968, j'ai voyagé dans plus de 70 pays pour annoncer son évangile, et j'ai vu que notre planète est immensément riche. La création de Dieu est une merveille. Il est bon et il a créé tout ça pour vous. Il a créé énormément de choses. On pourrait lire dans Deutéronome au chapitre 33, verset 13 maintenant si vous voulez. 33, verset 13 et 14. Écoutez bien. Sur Joseph, il dit... Son pays est béni du Seigneur par les largesses du ciel, par la rosée, par l'abîme étendue en bas, par les largesses des produits du soleil, par les largesses de ce qui germe à chaque lune, par les meilleurs produits, les montagnes du temps jadis, par les largesses des collines d'autrefois, par les largesses de la terre et de tout ce qui s'y trouve, etc., etc., etc. Abondance, largesse, tout est abondant. Dieu nous a placés dans un monde d'abondance. Adam et Ève ont été créés, et puis Dieu a créé un jardin pour eux, il les a placés dedans, et c'était un paradis d'abondance. Ce paradis était fait pour nous qui sommes créés à l'image de Dieu, et nous étions destinés à vivre, à rêver, à travailler avec Dieu pour accomplir son plan divin. Il avait un plan divin. Et puis est venue la tentation d'abandonner Dieu pour choisir un autre maître. Hein, il s'est présenté, et puis voilà, Ève et Adam l'ont écouté, et puis ils ont cru au mensonge du diable. Vous connaissez tous cette histoire. De toute façon, je prêche à des chrétiens, je ne vais pas commencer à vous expliquer le pourquoi et le comment de tout ça, mais Dieu les avait avertis. Et il les a chassés de sa présence. Voilà. Et l'humanité est devenue ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est, esclave du maître qu'elle a choisi. Voilà. L'humain a abdiqué son droit à la vie comblée que Dieu lui réservait. Mais dans son amour, Dieu n'a pas renoncé à son rêve d'avoir près de lui l'homme et la femme qu'il avait créé. Bon. Étant juste, Dieu ne peut pas avoir de communion avec le péché et avec l'erreur. Nous sommes créés à son image et il y a des choses que nous-mêmes ne supportons pas. Dieu, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se vantent d'être athées. Oh. Mais est-ce qu'ils savent même d'où ça vient le mot athée? Ben, je vais vous faire un petit cours de mythologie ce matin. La mythologie grecque, 400 et quelques années avant Jésus-Christ, ils avaient inventé une histoire. Athée était la fille d'Iris. Iris, ça signifie discorde. C'est-à-dire que ce qui est né de la discorde, c'est devenu athée. Et athée est donc né d'une discorde. Et athée, c'est une divinité qui est redoutable, hein, quand vous lisez la mythologie grecque, c'est une divinité redoutable qui personnifie l'erreur. Le mot péché signifie erreur. Péché égale erreur. Ça signifie le moment d'égarement. Au sens du nom commun, athée en grec, ça signifie frappant les humains au hasard dans n'importe quelle circonstance. Athée, c'est l'égareur, l'égareuse. Athée est l'égareuse qui pousse les gens à faire leur propre malheur. C'est la mythologie grecque, bref. Voilà d'où vient le mot dont se part orgueilleusement, bêtement, les incroyants. Moi, je suis athée. Ah, l'égareur qui frappe au hasard et qui pousse les gens à faire leur propre malheur, c'est ça que tu dis être, je suis cela? Eh ben, vous êtes ce que vous dites que vous êtes, hein? Et voilà pourquoi le monde, qui a rejeté le seul vrai Dieu, va si mal. Bourré de gens qui égarent les autres, qui trompent les autres, qui frappent au hasard, qui les poussent à leur propre malheur. Vous voyez? Ce que la Bible dit depuis des milliers d'années, la mythologie grecque l'a mis à sa sauce, environ 480 ans avant Jésus-Christ, et ces mythologies ressemblent à la vérité, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui est responsable des folies destructrices de ce monde. Dieu a simplement averti l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 4 et 12, je crois. Mais si je parle à des chrétiens, je ne parle pas à des athées, les athées ne s'amusent pas à perdre leur temps à venir écouter un pasteur. Dieu nous aime, nous, ses enfants. Nous qui lui faisons confiance. Il nous a accueillis joyeusement dans sa présence. Dans sa présence dans laquelle nous pouvons partager la vie abondante qui est la sienne. On trouve ça dans Hébreux 10, 18, 22 ou 23. Vous lirez ça chez vous tranquillement. Nous avons été recréés à son image. On était devenus une espèce de caricature. Nous sommes de son espèce, mes frères et sœurs. Vous qui avez choisi Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes de son espèce. Sans lui, on ne peut pas être satisfait. Parce que le monde sans Dieu a perdu son chemin. Il a hérité de quoi ? De la solitude, de la tristesse, de la souffrance, de la maladie, de la misère, de l'échec, de la trahison, des meurtres, de la haine, enfin bon, vous connaissez le tableau. Nous nous sommes laissés trouver par Dieu. Parce qu'on sentait en nous-mêmes que notre vie n'avait pas de sens. Or Jésus nous a dit, je suis le chemin. Jean 14, 6, je suis le chemin. Jésus dit pas, je suis un chemin. Il dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre parce qu'il n'y a que lui qui a donné sa vie pour que la colère de Dieu se calme. Il a pris sur lui nos fautes et comme ça, il est le chemin qui nous ouvre la porte aujourd'hui pour que nous puissions entrer chez nous dans le jardin de l'abondance de notre Père. Il dit, je ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 12. Marcher dans l'intégrité, c'est marcher selon ses commandements. Aime ton prochain comme toi-même, pardonne, sois poli, sois gentil, voilà tout ça. Sa puissance divine nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie éternelle. C'est lui qui nous a donné tout ce qu'il faut. Nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et grâce à ces promesses, vous pouvez devenir participant à la nature divine. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre, celui que les catholiques nomment Saint Pierre. C'est dans 2 Pierre 1, 3, 4. Mais savent-ils que Pierre a dit que vous pouvez devenir participant de la nature divine? Je doute, hein. Je doute qu'on leur ait dit ça. Ils le savent pas. Alors pour nous, finit la peur. fini l'incertitude, fini la culpabilité, fini la condamnation, cet esprit d'infériorité devant les autres ou même devant Dieu. Nous sommes ses enfants. Un enfant, il n'a pas un esprit d'infériorité devant son père. Vous connaissez votre père, vous êtes en communion avec lui comme un ami personnel, même plus. Vous êtes sa famille. Vous trouvez ça dans Éphésiens 2, 18-19. Alors, pauvreté, privation, pénurie, précarité, c'est pas votre lot. Pourquoi vous vous êtes laissé avoir? Si vous vous êtes laissé avoir, faut pas se laisser avoir. C'est pas votre lot. Il faut être croyant, c'est croire ce que Dieu dit. Être croyant, c'est croire ce que Dieu promet. Parce que Dieu a créé les richesses de notre planète et il les a placées pour la prospérité premièrement de ses enfants. Ouais, il y a des tas de voleurs qui ont volé pour être prospères, mais pas nous. C'est Dieu notre source, mais encore faut-il le savoir et puis le croire. Il y a beaucoup trop de gens qui croient, mais qui ne savent pas. Il faut que vous sachiez que Dieu a tout ça pour vous. Est-ce que vous le croyez? Bon, maintenant vous le savez, je vous l'ai dit, mais est-ce que vous le croyez? Parce que c'est ça, être croyant. C'est croire ce que Dieu dit. Il dit qu'il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse. Mais vous imaginez la richesse de Dieu? Il dit, par l'apôtre Jean, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en pleine santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean, verset 2. Mais tu ne pourras pas être prospère à tous égards et en bonne santé si ton âme ne prospère pas. Il faut que ton âme prospère, c'est-à-dire ton être, ton intelligence. Il faut que tu l'enrichisses avec les bonnes paroles de Dieu. Quand les bonnes paroles de Dieu remplissent ton âme devient intelligente, forte, prospère. Et alors, à ce moment-là, le reste suit. Je relis le texte. « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Il doit y avoir une prospérité dans ton âme, pas une espèce de misérabilisme, de fatalisme ou de je ne sais pas quoi. Dans Jérémie, chapitre 33, 6 à 8, il est dit « Je les guérirai, c'est Dieu qui parle, je les guérirai, je leur révélerai une abondance de paix et de vérité, je les purifierai de leurs iniquités, je pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils ont péché contre moi et les autres. Ils craindront et trembleront à cause de tout le bien et de toutes les prospérités que je réaliserai pour mon peuple. » Vous voyez? Voilà ce que Dieu veut pour vous. Il faut que vous attendiez réellement, fermement à ça. Pierre, l'apôtre, dit « Si vous voulez une vie heureuse et comblée, abandonnez-vous paisiblement à Jésus-Christ, votre Seigneur. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous croyez comme ça, soyez prêt à le lui dire amicalement et avec respect. » C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. On trouve ça dans sa première lettre, 1 Pierre 3, 10 à 15. C'est ça, être croyant. C'est avoir la vie, pas simplement une espèce d'existence où on se traîne comme des vieilles limaces malheureuses en disant qu'il y a des vertus dans la pauvreté. C'est faux, il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Le style de vie que Dieu a en réserve pour les siens, c'est magnifique. Croyez ça. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il y a des vertus dans la pauvreté, dans la maladie, que... Non, ce sont des faux prophètes. Arrêtez de croire ça. Croyez ce que Dieu dit dans la Bible. C'est pourquoi j'insiste toujours tellement sur ça. Lisez votre Bible. J'avais un professeur à l'école biblique qui disait « Lis ta Bible et lis-la bien. » Que Dieu vous bénisse. Au revoir.